Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis avec Frédéric Descrozailles. Bonjour.
Bonjour.
Candidat avec Déborah Rosen-Vargon de Renaissance pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochains pour les communes de Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil-Nord et Saint-Maur-des-Fossés, autrement dit la première circonscription du Val-de-Marne. Vous êtes le député sortant de cette circonscription et candidat donc à votre réélection. Comment jugez-vous la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron? Pensez-vous qu'elle soit un risque inutile et dangereux, une décision insensée? Je reprends ici les mots de Gilles Legendre, votre ancien collègue au Parlement dans Le Monde la semaine dernière.
Cette décision, j'en prends acte. Je pense qu'il n'est absolument pas temps de la commenter. C'est dans les prérogatives du chef de l'État. Il l'a prise, je pense, évidemment, en ayant réfléchi. Moi, comme député, j'en prends acte. Voilà. Donc, il faut en faire une opportunité, parce que c'est l'occasion pour chacun de s'exprimer et de redéfinir le visage de l'Assemblée nationale, la représentation des élus de la nation. Donc pour moi, il s'agit pas, on n'est pas dans une législative qui fait suite à une présidentielle pour donner la majorité au président qui vient de gagner. Il s'agit de, pour les Français, de définir quelle est la majorité qu'ils souhaitent, sachant qu'il y a trois blocs, et que je pense que la majorité absolue est improbable. La barre est très très haute. Donc, et je pense en fait qu'il est très sain d'apprendre à fonctionner avec une majorité relative. Moi, j'ai passé les deux dernières années que j'ai passées, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que les cinq précédentes avec une majorité absolue. Donc, c'est une opportunité pour fonctionner, comme la plupart de nos voisins d'ailleurs, avec des forces politiques dont aucune n'a la majorité absolue. Et c'est une opportunité pour confirmer que c'est du centre que peut être issue une majorité, une coalition parlementaire la plus équilibrée.
D'après le Figaro d'hier, Emmanuel Macron espère une majorité complète à l'issue des législatives, mais ce n'est pas du tout ce que dessinent pour le moment les sondages. Croyez-vous, vous, Frédéric Descrozailles, à une majorité de votre camp?
Je repars pour ça. Je repars pour qu'il y ait une majorité au centre. Je repars avec 2 ans d'expérience de majorité relative. Tous les textes qui ont été adoptés hors budget l'ont été 149-3 depuis 2 ans. Alors on pourra discuter sur la réforme des retraites, parce que techniquement, c'était un texte budgétaire, mais c'était la réforme des retraites. Mais c'est le seul. Et il y a eu énormément de lois qui ont été adoptées depuis 2 ans. Ça veut dire qu'on a dégagé, entre nous, même avec une majorité relative, des majorités pour faire aboutir pas mal de textes. Moi, j'ai mis mon nom sur une loi qui porte sur les relations commerciales. Mmh. Ça a été, et c'était dans un contexte qui était tendu. Ça s'est même fait avec de fortes réserves de la part du gouvernement. Donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est ce type de coalition. J'ai pu travailler avec des collègues socialistes, j'ai pu travailler avec des collègues LR au sein de la Commission des affaires économiques, et on a fait converger beaucoup de choses. Donc c'est dans cet esprit-là que je repars, c'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'il y ait une confirmation de cette majorité au centre, qui est la plus raisonnable, parce que des deux autres côtés, je ne crois pas que l'unité de la nation sera refaite à partir de l'un des deux bords de l'échiquier politique.
Mais donc vous renvoyez dos à dos la gauche, l'extrême gauche, avec l'extrême droite?
C'est pas dos à dos, les extrêmes, je n'en veux pas. La radicalisation et pour des raisons, un historique, des ADN complètement différents, mais les franges radicalisées à droite et à gauche, je les crains. Je les crains pour le pays. Parce qu'elles se détestent, elles inquiètent. Moi, j'ai vu ce qu'était le comportement de l'extrême gauche dans l'hémicycle. C'était de l'obstruction avec des amendements par centaines du type annuellement à la place de chaque année. C'était de la provocation. C'était un comportement qui n'était pas digne, en réalité, de notre fonction. Et l'extrême droite, je considère que l'obsession du droit du sol est une rupture avec ce qu'est la France. Puisqu'on a connu des vagues d'immigration, entre autres l'immigration portugaise, mais on en a connu plein qui ont fait la France, avec l'adhésion à des valeurs du mérite, du travail, du respect de la République, de la démocratie, ça fait notre histoire. Donc cette rupture-là, je n'en veux pas. Moi, c'est pas du tout ma conception de la citoyenneté et de la France que de revenir sur cette tradition, en fait. Donc ce sont deux franges dont je me méfie, que je crains pour la nation, et c'est pour ça que je m'inscris dans une majorité à partir du centre de l'échiquier politique.
Visiblement, la jeunesse n'emmerde plus. Le Rassemblement National, un quart des moins de 25 ans et 30% des 25-34 ans ont voté pour le RN lors des élections européennes. Quelle est la part de responsabilité du pouvoir en place de votre camp?
Elle est réelle. Je ne saurais pas vous dire de combien elle est, mais elle est absolument réelle. Il y a deux choses que je dénonce d'ailleurs depuis plusieurs années, et que je n'ai pas réussi au sein de mon propre camp, de ma propre famille politique, à fédérer autour de ça. Mais il y a deux choses qu'on a loupées depuis 7 ans. La première, c'est que c'est absolument vrai qu'il y a eu une certaine arrogance du pouvoir. C'est absolument vrai que nous avons manqué de capacité d'écoute, de capacité à nous taire, pour écouter, pour comprendre. Et ça, il est évident que nous avons braqué avec une prétention, en fait, à avoir compris et à être juste dans ce que nous décidions. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas inversé, nous n'avons pas rééquilibré la relation de pouvoir entre le gouvernement et le Parlement. Nos institutions prévoient que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous la cinquième, c'est le gouvernement qui a besoin du Parlement, c'est pas le contraire. Et ça, et particulièrement en situation de majorité absolue, on a un gouvernement en fait qui ne contrôle pas l'action publique, qui ne contrôle pas réellement l'action du gouvernement. Là, pour les Français, c'est une opportunité de définir un Parlement qui peut-être pour la première fois depuis très longtemps, et en tout cas depuis le quinquennat, va imposer le gouvernement à partir d'une coalition parlementaire et va littéralement dicter à l'exécutif ce qui sera possible de faire, ce qui sera souhaitable de faire. Et si on légifère moins avec une telle assemblée, c'est tant mieux. Parce qu'on a plutôt tendance à surlégiférer, à avoir une surproduction de normes et à ne pas maîtriser la conduite de l'action publique. Donc si on légifère moins et qu'on contrôle mieux, en fait, les services de l'État et la façon dont les lois qui sont déjà en vigueur sont appliquées, je pense qu'on redonnera plus de valeur, plus d'importance au Parlement, et que ça, c'est très sain dans une démocratie.
Mais le camp présidentiel, votre camp n'a-t-il pas banalisé l'extrême droite ? Emmanuel Macron a participé à remplacer le clivage gauche-droite par le clivage centre-extrême. Vous le disiez vous-même, vous êtes le centre, il y a des extrêmes, et cette nouvelle recomposition des adversités politiques a nécessairement participé à la banalisation du Rassemblement national.
Alors, le terme banalisation, on peut considérer qu'il est à l'œuvre, particulièrement avec Marine Le Pen, le fait que la lettre F ait été remplacée par la lettre R. La stratégie qui consiste à culpabiliser les gens qui votent pour le Rassemblement National, je pense que c'est une erreur. À l'Assemblée, je ne discriminais pas entre les élus de la nation. Parce que le respect qui est dû à un élu, c'est le respect qui est dû aux électeurs qui ont voté pour lui ou qui le soutiennent. Donc, on n'a pas aujourd'hui 35% de Français qui sont racistes, des nostalgiques de Vichy et de l'OAS, c'est pas vrai. Donc en fait, la compréhension de ce qui est en train de se passer, si je vous parle des circonscriptions rurales, parce que je connais bien la question agricole, c'est pas l'obsession de l'immigration, c'est une exaspération sur une non-maîtrise, encore une fois, de la conduite de l'action publique. Moi j'entends beaucoup de gens qui nous disent « mais où est le pouvoir ?» Et il y a beaucoup de gens qui ne votent plus, c'est à quoi ça sert, ça ne changera rien. Parce qu'en fait, je le redis, il y a beaucoup d'arbitrages politiques qui se font au sein de l'exécutif, dans les bureaux des ministères et des services de l'État, auxquels nous n'avons même pas accès. Donc il est grand temps que le Parlement reprenne la main et que la politique soit vraiment faite par les élus à l'Assemblée.
Mais ne conduisez-vous pas les électeurs à voter RN ? Quand votre collègue Aurore Berger dit que le meilleur rempart face au nouveau Front Populaire, c'est pas le RN, c'est nous, vous appelez à faire barrage contre la gauche et non plus contre l'extrême droite.
Encore une fois, je pense que la cohésion de la nation, l'unité de la nation est esquintée. Pour plein de raisons. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne peut même plus parler. Et je pense que il y a une très forte demande d'apaisement, de raison. Je pense que l'écrasante majorité des Français aspirent tout simplement à vivre en paix avec leurs voisins, à avoir des liens sociaux de proximité qui ne sont pas conflictualisés. Et je pense que du coup, cet appel à la raison, au fait de pouvoir se parler sans forcément être d'accord sur tout, c'est nécessairement effectivement au centre. Parce que, encore une fois, on a des extrêmes qui se haïssent. Ils inquiètent parce qu'ils se haïssent. Donc de confier un gouvernement à l'un des deux bords de la scène politique, je pense que ça ne réparera pas les liens qu'il faut soigner entre nous.
Édouard Philippe, président du parti Horizon, a acté hier la rupture avec le président de la République. L'ancien Premier ministre reproche au chef de l'État d'avoir tué la majorité en décidant de dissoudre. Il dit aussi comprendre très bien la colère des Français. Que lui répondez-vous ?
Je lui réponds que dit comme ça, on est d'accord. Édouard Philippe s'inscrit pour une nouvelle majorité. Il insiste sur le fait qu'il ne veut pas refaire ce qui a été fait. Ben oui, bien sûr. Moi non plus. J'ai pas envie qu'on prolonge les promesses que nous n'avons pas tenues, notamment dans le renouvellement des pratiques politiques. et dans, encore une fois, dans le contrôle de l'action publique. Donc, dit comme il le dit, je suis d'accord. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait la capacité à fédérer les gens qui sont d'accord sur cet essentiel. Encore une fois, on ne serait pas d'accord sur tout. Moi, quand je vous parle de lois qui ont abouti, dont certaines à l'unanimité d'ailleurs quand même, hein, c'est-à-dire sans personne qui vote contre, bah, c'est des compromis. Quand je vous dis que j'ai travaillé avec des socialistes et des LR, évidemment qu'on n'était pas sur la même ligne pour tout. Donc on trouve des compromis. Et sur des choses qui sont transpartisanes, je pense à l'enjeu de l'alimentation, de la protection des PME, du commerce de bouche et de proximité, sur la protection de chaînes de valeur, sur les choses dont je me suis occupé. J'étais en train de travailler sur la proposition d'une loi portant sur le droit de la concurrence qui concerne beaucoup tout ce tissu d'économie de petites entreprises qui font en fait le cœur battant de l'économie française. Ben ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut se retrouver de manière transpartisane si on se respecte, qu'on discute et qu'on trouve des convergences autour, encore une fois, de compromis.
Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de choses très concrètes. Parlons maintenant des classes moyennes, qui étaient devenues la priorité du gouvernement de Gabriel Attal. Mais elles sont aujourd'hui massivement frappées par l'inflation, souvent exclues des dispositifs d'aide, n'ont aucune perspective d'ascension sociale, et se tournent donc maintenant vers le Rassemblement national. Quelles solutions proposez-vous pour ces classes moyennes ?
Alors, je pense qu'il faut continuer à... pardonnez-moi, parce que je veux partir du général et revenir sur le particulier, mais il faut continuer à être un pays qui rassure les créditeurs internationaux. Le fait est que nous vivons dans une économie mondiale financiarisée. Ça, c'est lié au système monétaire international. C'est pas un choix de gouvernement français, c'est comme ça depuis les années 80. Donc, cet enjeu-là, nous empruntons entre 200 et 400 milliards par an, c'est-à-dire que tous les mois de janvier, les fonctionnaires sont payés avec de l'argent qui, en fait, est emprunté. Donc, cette trajectoire sur notre dette, la maîtrise de la dépense, évidemment, mais de toute façon, dans ce contexte, notre capacité à rassurer les créditeurs, nos débiteurs, nous sommes débiteurs, les créditeurs qui prêtent de l'argent à la France, elle est essentielle. Et l'attractivité économique de la France, le fait qu'il y ait des investissements étrangers et les efforts sur l'emploi, ça reste pour moi la trajectoire la plus sûre pour générer de la richesse et améliorer le sort, entre autres, des classes moyennes et de tout un tas de personnes. Si on prend les salariés, tous ceux, le salaire médian en France, il est guère plus élevé que 1800-1900 euros. Je ne sais plus exactement ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la moitié des salariés de France gagnent moins de 1900 euros, ce qui est trop peu. Moi, je parlerai moins du SMIC que de ce salaire-là médian qu'il faut pousser. Et pour que tous les gens qui gagnent 1800, 2000 euros gagnent un peu plus, 2002, 2003, et qu'on pousse en fait, cette échelle des salaires pour que ça fasse monter tout ce qu'on appelle les classes moyennes, ben il faut de l'économie, il faut des investissements étrangers, il faut de l'emploi. Je connais pas un secteur de l'économie aujourd'hui qui ait pas du mal à recruter. Donc je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'efficacité de l'action publique emmerde plein de gens. C'est absurde. Il y a de plus en plus de normes, beaucoup de services de l'État qui ne se parlent pas et beaucoup d'absurdités administratives dans des lois en fait qui sont trop bavardes et trop complexes. Et l'une des choses que j'avais proposé à Gabriel Attal, qui l'a pas mise en place, c'était juste avant la dissolution, mais j'étais en train de travailler avec ses services là-dessus, c'était de simplifier toutes les normes qui s'appliquent à l'agriculture en les réécrivant. C'est-à-dire de lister toutes les normes légales qui s'appliquent à l'agriculture et d'en sortir 30 à 40% de la loi. Cette simplification-là, à la racine, par la simplification, par la réécriture de la loi, je pense que ça peut s'appliquer à pratiquement tout ce qui concerne la vie quotidienne des entreprises et des gens. Et c'est un effort qu'on n'a pas fait parce que depuis 7 ans, nous avons fait comme nos prédécesseurs, c'est-à-dire que ça fait des décennies qu'il y a une tendance à surlégiférer en France. Parce que ce sont les administrations qui produisent de la norme et qui proposent les textes au Parlement dans lesquels il y a trop de détails. Et ça, c'est un point de retour qu'encore une fois, on est vraiment dans le déséquilibre de la relation entre Parlement et gouvernement auquel on n'a pas suffisamment touché. Donc je m'inscris là-dedans.
Et donc depuis 7 ans, le macronisme est un échec ?
Ben, non, je vous ai parlé d'attractivité qui a été augmentée, je vous ai parlé de l'emploi. Ce sont pour moi les principales réussites de ce que nous avons fait. Je vous parlerai de l'apprentissage que nous avons énormément amélioré. Je suis un ancien recruteur. Je peux vous dire que ce qui a été fait, moi j'en suis très fier. Quand je recrutais il y a 10 ans, l'alternance était quelque chose qui n'était pas considéré. L'apprentissage, c'est quelque chose qui pour des parents d'élèves, pour des étudiants et pour beaucoup d'entreprises, c'était un truc qui était déconsidéré. Ben, nous l'avons complètement remis devant. Et heureusement, il y a de plus en plus de formations aujourd'hui qui se font par alternance. Et c'est extrêmement précieux. Au contraire, ça donne de la maturité, la connaissance de ce qu'est une entreprise, ce que sont les liens avec des collègues et un patron, alors qu'on n'a pas terminé ses études, ça a énormément de valeur. Donc non, ça n'est pas un échec sur... Là, je vous pointe ce que je pense que nous n'avons pas réussi, mais je ne renie absolument pas ce que nous avons fait.
En septembre dernier, vous avez défendu, Frédéric Descrozaille, l'idée qu'il fallait accepter le soutien de l'extrême droite, parfois, selon les cas. Ça a été rapporté par le journal Libération. Vous le pensez toujours aujourd'hui ?
Alors, ce qui a été rapporté est faux. Donc, merci de me donner l'occasion de vous dire ce qui s'est passé. Au sein de mon groupe, il y a une discussion pour savoir s'il y avoir une position de groupe, de principe, consistant à ne jamais voter quoi que ce soit qui vienne d'un député RN. Et moi, j'ai dit, je ne prendrai pas cet engagement parce que je ne me prononce pas sur un contenu en fonction de son auteur. Et donc, s'il y a un amendement, même s'il vient des bancs du RN, est juste, qu'il est pertinent, et que je suis d'accord, je ne m'interdirai pas de voter pour. Parce que la pratique qui consiste à voter contre, et en fait à le réécrire quasiment à l'identique, et à le redéposer pour que ça soit le camp de la majorité qui puisse le signer, je pense que c'est une pratique qui est sotte, qui est une pratique d'affichage, mais qui est sotte. Donc j'ai simplement dit, je ne me prononce pas sur un contenu en fonction de son auteur. C'est ça que j'ai dit, ça a été déformé et c'est ressorti en Descrozaille et pour faire alliance pour partir avec le RN. C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Mais le pragmatisme peut-il passer au-dessus de tout ?
Le pragmatisme, il est utile en termes de méthode quand on a une vision. Le pragmatisme ne remplace pas la vision qu'il faut avoir. La vision que je maintiens, que je ne renie pas, qui a été la nôtre, qui était libérée, protégée, c'est une vision qui consiste à miser sur le fait que ceux qui sont le plus dans le besoin, qui ont besoin de l'aide de la collectivité, parfois simplement parce que il y a un passage à vide ou une difficulté qui est rencontrée dans la vie, et ben ces personnes-là, il ne s'agit pas d'avoir une approche compassionnelle. Moi, j'assume de faire partie d'une formation politique qui a cherché à rompre avec l'approche compassionnelle de nos concitoyens qui ont besoin de l'État et de la solidarité de la nation.
Mais qui la nourrit, paradoxalement, puisqu'aujourd'hui c'est le compassionnel, c'est la peur qui fait voter pour l'extrême droite.
Moi, je ne manipule pas du tout la peur. Je ne prétends pas que le ciel va nous tomber sur la tête. Je pense qu'il faut justement garder la tête froide. Encore une fois, on n'a pas une telle quantité de Français, des millions et des millions de gens qui sont dangereux. Ça n'est pas le cas. Je pense qu'il faut, encore une fois, se détendre, se parler. Et c'est pas la peur, pour moi, qui doit guider le comportement électoral. C'est la réflexion, la discussion avec des voisins, en famille, avec des amis, avec des collègues, pour que tout le monde refasse de la politique. En réalité, ces élections, là où c'est une opportunité, c'est que chacun a le pouvoir de s'exprimer. Personne ne sait ce que sera le résultat. On a rarement eu autant d'incertitudes. Et au fond, c'est plutôt une chance, parce que c'est ça la démocratie. Moi, j'ai confiance dans le jugement collectif des Français. Je pense qu'on est un peuple qui est très politique, qui a beaucoup de maturité. Et j'ai confiance dans l'intelligence collective du peuple français.
Personne ne sait ce qu'il se passera après les élections, mais Emmanuel Macron parle quand même de guerre civile.
C'est un terme, une perspective que je ne reprends pas à mon compte. Il y a, par endroit, des climats de guerre civile. Si je prends l'exemple de l'eau, que je connais, il y a par endroit, autour des collectifs anti-bassines et d'agriculteurs, des climats qui sont... on est au-delà du dialogue de sourds. Effectivement, ça existe. Je ne crois pas que nous en sommes là au niveau de la nation. Je pense, encore une fois, je vous le redis, à des observateurs, des politologues qui l'affirment, l'écrasante majorité des Français aspirent à vivre en paix. Nous sommes un peuple compliqué. Nous avons fait un pays à un endroit du monde où il y a des différences incroyables. Il y a des micro-identités de clochers, de villages en France partout qui sont absolument insolubles. Avec ça, nous avons réussi à faire un pays. Et je pense que nous le savons. Nous sommes capables de créer du « nous » et de créer du « vivre ensemble ». Moi, je m'appuie là-dessus. Je pense que dans notre grande majorité, c'est ce à quoi nous aspirons.
Nous sommes un peuple compliqué, mais nous avons des principes installés depuis longtemps. Et hier, Jordan Bardella a annoncé vouloir supprimer un de ces principes, installé, pour rappel, dans le droit français depuis 1515 et devenu un fondement de la République en 1889. Quelle conception avez-vous du droit du sol ?
C'est absolument, pour moi, lié à ce qu'est notre nation. Je pense que devenir français, historiquement, c'est un pacte. Et ça s'adresse potentiellement à n'importe qui. C'est-à-dire que personne n'en est indigne, a priori. C'est un pacte entre un individu et une nation. Simplement, ça n'est pas une aumône. Ça ne se donne pas sans contrepartie. C'est une exigence et c'est fondé sur l'éducation. Donc, il y a une crainte autour de notre capacité à faire devenir français aujourd'hui. C'est certain. Et c'est un enjeu qui concerne beaucoup la culture et l'éducation, avec notre système d'éducation qui est assez largement en crise. Et c'est long de réparer ces choses-là. Mais rompre avec ce principe, pour moi, c'est une absurdité. Ce sont des discussions que j'ai eues de manière très courtoise et même intéressante avec des collègues du RN. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'histoire de France, c'était à propos des européennes. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, on est vraiment d'accord sur rien. C'est-à-dire, j'arrive même pas à prendre un bout de ce que tu dis pour dire, bah oui, d'accord, mais... Et puis il m'a répondu, oui, mais c'est sympa de pouvoir discuter comme ça. Et c'est vrai, non seulement c'était une conversation intéressante, mais en plus, c'est important de pouvoir se parler comme ça. Donc, c'est une volonté politique, elle est portée aujourd'hui par beaucoup de gens. Pour moi, c'est un rejet, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce que c'est une rupture, c'est un contresens sur ce qu'est la citoyenneté française, et ce qu'est notre identité. Mais on en parle, c'est l'idée que je rejette, ce ne sont pas les personnes. Et la démocratie, c'est ça, c'est de porter le fer sur les intentions, sur les idées, et de ne jamais juger les gens.
L'antisémitisme est un thème majeur, malheureusement, de la campagne de ces élections législatives. On constate une flambée des actes antisémites en France au premier semestre 2024. Selon les chiffres du gouvernement, 366 faits antisémites ont été recensés entre janvier et mars, soit une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de 2023. Quelles solutions pouvez-vous promettre à nos compatriotes français juifs ?
Alors, ce que vous venez de décrire, ça soulève le cœur. C'est monstrueux ce à quoi on assiste. Il y a une réactivation de la haine des Juifs. Et la haine des Juifs, c'est quelque chose qui est... C'est un phénomène quasiment anthropologique. C'est complètement fou. Ça date... La première trace de pogrom que l'on a date de l'Antiquité, à Alexandrie. Pour des motifs, le sang de sacrifice humain pour faire du pain azim, que l'on retrouve dans le concept d'antisémitisme fabriqué de toutes pièces au XIXe siècle. C'est complètement dingue. C'est un peuple qui n'a jamais vécu en paix durablement nulle part pendant 2000 ans. Et on réactive ça, c'est une bestialité en réalité. Et là, c'est quelque chose qui est inacceptable de la part de la frange extrémiste de notre gauche actuelle. Parce que c'est sciemment qu'ils le font.
Oui, parce que vous dites le mot réactivation, mais qui la réactive ?
Ah ben, il y a toute une frange de aujourd'hui de notre politique, de nos politiques, qui se sont laissés complètement pénétrer par la cancel culture et le wokisme qui nous vient tout droit des États-Unis, qui menace franchement notre cohésion, notre unité nationale, et qui par ignorance, par bêtise ou par calcul électoral, manipule et instrumentalise la situation au Proche-Orient et réactive cet antisémitisme. Donc ce que je peux dire à nos compatriotes juifs, c'est que je fais partie de ceux pour lesquels c'est absolument non négociable. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de non mais. Là, c'est une ligne qui est absolument infranchissable et c'est inacceptable dès le début. Il n'y a pas de blague qui puisse être drôle là-dessus. Aujourd'hui, on vit dans une société où sale juif, c'est une insulte qu'on peut entendre dans une cour de récréation avec des CM2. C'est complètement dingue. Et là, la fermeté doit être celle du Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Le pas de vague, c'est fini. On a quand même beaucoup vécu par ça. C'est-à-dire, et ça a marqué nos administrations, une partie de ce qu'était l'État, de se dire, on va pas se fâcher. Donc, on va pas faire d'histoire. Ben si, avec l'antisémitisme, c'est une histoire tout de suite. Encore une fois, sans juger les gens, mais les actes et les paroles sont absolument inacceptables. Et il y a effectivement, de ce point de vue-là, un retour de l'ordre, du respect de l'autorité, qui est absolument indispensable.
Mais qui, aujourd'hui, dans le paysage politique, ne dit pas ce que vous dites ? Qui appelle au contraire ?
Ben, aujourd'hui, on a, encore une fois, à la partie extrême-gauche. Et d'ailleurs, c'est pour moi quelque chose qui rend le nouveau Front Populaire un truc qui n'est absolument pas crédible.
NFP est donc antisémite, selon vous ?
Non, le NFP, c'est quoi ? C'est juste un accord électoral pour se répartir des circonscriptions. Alors, c'est très efficace pour avoir des sièges. Mais moi, je les ai vus depuis 2 ans. Le comportement pas tous, mais de certains insoumis, pas tous, parce que encore une fois, il y en a quelques-uns moi, avec qui je pouvais parler, il y en a qui disaient même pas bonjour. Mais le comportement le plus provocateur, le plus débridé, le plus désinhibé, le plus sans scrupule à l'Assemblée, ce comportement exaspérait mes collègues des groupes de la NUPES, écologistes, communistes et socialistes. Donc le nouveau Front Populaire, je n'y crois pas un instant. Je pense qu'ils n'arriveront absolument pas à gouverner ensemble et à tomber d'accord sur eux. Justement sur une vision, notamment parce que cette question de l'antisémitisme les déchire. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, on a, enfin c'est complètement clair, il y a aujourd'hui des leaders insoumis, on a même des élus aux européennes qui assument totalement d'avoir une approche inacceptable de ce qui se passe au Proche-Orient, qui instrumentalisent et puis qui font de la confusion entre religion, peuple, État et gouvernement. Donc ça, oui, je pense que ça les déchire à l'extrême gauche. Et oui, il y a une partie des politiques qui se servent, qui instrumentalisent ce qui se passe à l'extérieur et cette question-là. Je veux même pas savoir pour quelle raison. C'est juste pas acceptable.
Mais instrumentaliser une situation, jouer sur une ambiguïté, ça n'est pas être antisémite.
L'antisémite.
On peut reprocher l'ambiguïté. Mais on peut pas accuser d'antisémitisme.
Je parle de la haine des juifs. Je parle même pas d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un mot qui est apparu au 19e siècle parce qu'on peut plus parler d'antijudaïsme. Suite à la Révolution française. C'est la haine des juifs qui est derrière. Et le mot juif, d'ailleurs, pour quelqu'un qui active cette haine des juifs, c'est très pratique qu'il soit très mal défini. C'est-à-dire qu'on sait pas bien de quoi on parle. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une citoyenneté? Est-ce que c'est une langue? En fait, on sait même pas bien. Encore une fois, pour moi, c'est une forme de bestialité. Donc, il y a aucune excuse, il y a aucune compréhension qui permettrait de dire, je vois, ok, je comprends, mais non, ça doit être un rejet radical. Parce que c'est un universalisme. Cette haine, elle nous concerne tous en réalité. Justement parce qu'il y a cette confusion d'ailleurs. Donc c'est là, il s'agit de l'unité, vraiment l'unité de la nation est complètement menacée directement par ce regain, ce retour d'une forme de la haine des juifs.
Comment jugez-vous justement le programme du nouveau Front Populaire?
Encore une fois, je vous dis qu'il ne tient pas debout. Même s'il y avait des trucs intéressants dedans, je vois pas comment ils peuvent se mettre d'accord. Il n'y a pas de... Je l'ai constaté, ça, depuis 2 ans. Ce qui les a fédérés, c'est l'opposition au gouvernement. Et à Emmanuel Macron.
Et le barrage à l'extrême droite, ce que votre camp présidentiel ne fait plus.
Aujourd'hui, le barrage à l'extrême droite, toute personne qui n'est pas dans cette ligne, soit Ciotti, soit directement RN, peut prétendre qu'il fait barrage à l'extrême droite. Mais... Donc le programme du nouveau Front Populaire, on peut le prendre point par point. De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de gouvernement possible d'alliance, de vision commune, parce que ce qui fédère cette gauche aujourd'hui, c'est effectivement d'être contre une adversité qui leur est extérieure. Mais il n'y a pas la possibilité à l'intérieur de suivre une ligne commune. Ça, je n'y crois pas. Et c'est pour ça que je mise, encore une fois, sur une coalition parlementaire qui partent du centre.
Et justement, pour rebâtir et élargir votre camp, vers qui allez-vous vous tourner?
Ça va dépendre de combien on est, en fait. Le paysage le 7 juillet, c'est comment vont se répartir les effectifs des 3 blocs. Et il faut que le bloc central soit suffisamment nombreux. Je mise sur une majorité relative. Et même s'il n'y a pas de majorité relative, la question du budget va se poser tout de suite. Parce que s'il y a 2 blocs, des 2 extrêmes, très très hauts, on va avoir des articles dans la une de Quotidien, Outre-Atlantique, Outre-Rhin, Outre-Manche, qui vont évoquer la solvabilité de la France. Parce qu'en fait, c'est la question du budget qui est derrière. Aucun gouvernement soutenu par le RN ou soutenu par la France insoumise, sachant que je pense qu'ils n'auront pas de majorité absolue, aucun gouvernement ne peut faire passer de budget. Et pas de budget à la fin de l'année, c'est pas de fonctionnaires payés en janvier. C'est la fin des services publics qui sont en danger. Et même pas l'autorisation par le Parlement pour l'exécutif de lever l'impôt, c'est-à-dire même pas de rentrée de recettes. Donc ça va être pris très très au sérieux. Je pense que la réalité va s'imposer très vite à l'Assemblée dès le 8 juillet. Donc il faut qu'il y ait une coalition qui puisse au moins très rapidement de se dire, au pire, on soutient la loi spéciale prévue, pardonnez-moi c'est technique, mais la LOLF prévoit une loi spéciale. Si l'Assemblée n'arrive pas à voter un budget dans les délais, c'est constitutionnel, elle peut voter une loi qui autorise le gouvernement par ordonnance, grosso modo, à reconduire les dépenses et les recettes de l'année précédente. C'est écrit dans les limites des services votés, c'est ça que ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait une coalition très rapidement qui rassure, à l'étranger et la nation, sur le fait de dire au pire, il y aura une coalition pour permettre le passage de cette loi, pour le, qu'il y ait un maintien, une continuité de l'État, en fait. Donc, c'est quand vous me dites sur quoi mordre, bah, si ça vient du centre, je pense que ça peut aller jusqu'aux socialistes, aux LR. Peut-être même avec des communistes, il y en a quelques-uns avec lesquels je pouvais parler, et ça me paraît pas délirant qu'il y ait une prise de responsabilité des élus de la nation pour se dire notre responsabilité, c'est au moins la continuité de l'État. Donc, au pire, on laissera le gouvernement légiférer par ordonnance dans les limites des services votés, c'est-à-dire en reconduisant un budget.
Mais pourquoi cette prise de responsabilité n'a-t-elle pas lieu maintenant? Pourquoi le camp présidentiel ne se met-il pas du côté du nouveau Front populaire pour faire barrage, justement, et concrètement, à l'extrême droite?
Parce que là, on est en période électorale, donc il y a des blocs avec des partis politiques. Moi, ce dont je vous parle, c'est du Parlement. C'est-à-dire que je crois, c'est que l'avenir politique, en tout cas, moi, je m'engage pour ça, il se fera au Parlement, il se fera pas avec des jeux d'alliance entre partis. On assiste aujourd'hui à... On a aujourd'hui le leadership de la classe politique qui est esquinté, qui est un peu en crise. On a pratiquement tous les leaders des différentes formations politiques qui sont en difficulté avec des messages ou des mots d'ordre ou des prises de position de verticaux qui marchent pas bien. Et des situations complexes qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits sur le territoire. Donc ça appartiendra aux parlementaires de définir cette coalition et cette prise de responsabilité commune. Je ne crois pas que ça viendra des partis politiques qui l'imposeraient au Parlement. Je ne crois pas.
Frédéric Descrozailles, en novembre 2023, vous avez été mis en cause par Mediapart pour avoir, je cite, dévoyé l'enveloppe budgétaire censée couvrir vos frais de mandat en 2021. Vous avez, je le précise ici pour nos auditeurs et auditrices, et d'après des informations de Mediapart, donc, directement pioché dans une enveloppe d'argent public, celle vous permettant de rembourser vos frais de mandat, pour soutenir une personnalité locale en 2021, soit moins d'un an avant les élections législatives de 2022. Pour quelles raisons avez-vous utilisé l'argent public pour payer des frais qui, je cite encore une fois Mediapart, paraissent éloignés de votre ancienne activité parlementaire?
Alors, là aussi, cet article est issu de... Je pense que je vois quelle est la source, et c'est de la pure malveillance. Et là aussi, merci de me donner l'occasion de rectifier. C'est un sujet que j'ai évoqué longuement avec le déontologue de l'Assemblée nationale, figurez-vous. Parce qu'en fait, sur cette enveloppe de frais de mandat, nous avons des dépenses qui sont éligibles. Nous avons, je dis nous, la majorité, juste issue de après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, considérablement durci les conditions d'utilisation de cet argent pour conduire les mandats et d'embauche de collaborateurs, c'était suite au PNR et compagnie. Donc je tiens à le rappeler quand même parce que et le premier régime spécial de retraite que nous avons supprimé, c'est le nôtre, celui des députés. Tout ça date de 2017. Donc cet argent, moi je l'ai utilisé régulièrement pour des prestations. Il m'est arrivé par exemple de regrouper quelques collègues et de prendre une journée et on louait une salle pour travailler ensemble sur un fonctionnement de groupe, sur des enjeux parlementaires, etc. Bon, donc là, c'est une facture, et puis vous sortez la facture, et puis elle est visée par le déontologue de l'Assemblée. En l'occurrence, sur cette affaire, j'ai sollicité un avocat pour aider une personne morale qui était une association qui était en crise, parce que les deux fondateurs, en fait, se déchiraient. Et donc, il était question de savoir comment est-ce qu'on peut solder les comptes. C'était un petit peu l'équivalent d'un dépôt de bilan pour une entreprise privée. C'est un petit peu compliqué. J'ai sollicité un avocat pour faire l'analyse de la situation et des recommandations. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que je faisais partie, j'avais politiquement encouragé la création de cette association. J'avais d'ailleurs mis en relation avec Gustave Roussy, une association qui portait sur l'accompagnement des gens qui sont autour des personnes malades de cancer, famille et amis. C'était donc une cause que je trouvais très intéressante. L'objet de l'association, je l'ai soutenu. Et comme je faisais partie des gens qui s'étaient engagés pour cette association, quand elle s'est trouvée en crise, j'ai sollicité cet avocat pour leur transmettre des recommandations sur la meilleure façon, en fait, d'y mettre fin. C'est ça qui s'est passé. Rien d'autre.
Frédéric Descrozailles, ce sera ma dernière question. Quelle conception avez-vous du peuple?
Le peuple, par définition, il est convocable. Le peuple... il est uni par des règles de vivre ensemble. Le peuple, ce sont des personnes différentes, et en France, plus que dans plein d'autres endroits du monde, qui sont unis par une façon de prendre des décisions qui les concernent tous, et de mettre en commun des moyens et de contrôler la façon dont dont c'est dépensé. Donc cette convocation, c'est les élections. Ce qui, pour moi, le peuple est inséparable du fonctionnement d'un régime politique et pour nous de la démocratie, de la République française. Je le dis parce que de ce point de vue-là, il n'y a pas de peuple européen, parce que le peuple européen n'est pas convocable. Il y a des nations. Et ce qui est passionnant dans la construction européenne, quand j'entends le Rassemblement National dire « mais nous, on n'est pas anti-européens, il nous faut une Europe des nations ». Moi, régulièrement, je disais à des collègues « mais qu'est-ce que vous racontez ? On l'a, en fait, l'Europe des nations. Ce ne sont que des traités intergouvernementaux. Il y aura un peuple européen le jour où les élections européennes, ça sera le même scrutin, le même jour, dans tous les pays de l'Union, avec des listes transnationales. On en est très loin. On n'a pas ça aujourd'hui. Donc cette notion de peuple, c'est encore une fois une capacité à créer du « nous » sur un territoire. Et c'est en question aujourd'hui. C'est à la fois passionnant et inquiétant, parce que on peut considérer que ce peuple est en danger parce qu'il est en danger de dislocation. Mais ça nous appartient tous. Et cette élection législative, c'est une occasion pour qu'il y ait une expression collective, un jugement collectif sur justement sur ce « nous » et où est-ce qu'on veut l'emmener.
Frédéric Descrozaille est candidat avec Déborah Rosen-Vargon de Renaissance pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain pour les communes de Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil-Nord et Saint-Maur-des-Fossés, autrement dit la première circonscription du Val-de-Marne. Merci d'être venu ici dans l'Alpha 10-13 de Radio Alpha.
Merci.